les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la justice restaurative. Aujourd'hui, nous allons explorer le processus permettant sa mise en œuvre. Lors d'une interview brute, François Koller, réalisateur du documentaire « Je ne te voyais pas » et juriste de formation, explique la différence entre la justice pénale et la justice restaurative.
La justice pénale, elle va plutôt essayer de se centrer sur la peine. La justice restaurative, sur les besoins des parties. C'est la justice, les yeux dans les yeux, pour aider les victimes à se reconstruire et les auteurs à se responsabiliser.
La justice restaurative a pour objectif de servir les intérêts tant des victimes que des auteurs. C'est pour cette raison que plusieurs acteurs de la justice peuvent proposer la mise en œuvre d'une mesure de justice restaurative, dont les autorités judiciaires, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les associations d'aide aux victimes, les avocats ou les services de police et de gendarmerie. De telles mesures peuvent également être demandées ou par les victimes ou par les auteurs. Les victimes d'une infraction peuvent se rapprocher d'une association ou d'un bureau d'aide aux victimes ou composer le numéro européen d'aide aux victimes, le 116 006. Tandis que les auteurs d'infractions peuvent se rapprocher du service chargé de leur suivi judiciaire ou bien auprès du tribunal judiciaire.
Il n'en tire rien du point de vue d'une réduction de peine ou du point de vue indemnitaire pour les victimes. On est dans quelque chose qui est totalement gratuit.
Comme le précise l'ancienne directrice de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, Sabrina Bellucci, à l'occasion d'un court film réalisé par l'INAVEM, désormais France Victime, la justice restaurative est totalement gratuite. Elle est également marquée par certaines caractéristiques, dont le caractère confidentiel et la possibilité de quitter le processus à tout moment, contrairement à la procédure pénale. Cette procédure est caractérisée par son aspect volontaire et non contraignant, dans la mesure où la justice restaurative ne peut pas être assimilée à une peine prononcée par un juge. Ce qui importe derrière ce dispositif est davantage le respect de la temporalité de chaque acteur parti à la rencontre. La justice restaurative se caractérise également par son indépendance vis-à-vis de la procédure pénale. Comme le précise l'article 10-1 du Code pénal, pour que le processus soit mis en marche, il n'est pas nécessaire qu'une plainte ait été déposée. De la même façon, il n'est pas nécessaire qu'une plainte ait abouti et qu'une reconnaissance de culpabilité ait été prononcée pour mettre en œuvre la justice restaurative. Ces mesures ne sont pas limitées à un type d'infraction. Tant les crimes que les délits ou les contraventions peuvent faire l'objet d'une mesure de justice restaurative, que les faits soient prescrits ou non. La procédure de justice restaurative peut être mise en place en parallèle de la procédure judiciaire, mais aussi bien après et même parfois s'y substituer si les faits sont prescrits. Le recours à cette nouvelle forme de justice présente un fort intérêt. Il permet de rétablir un dialogue là où les liens sociaux ont été rompus, mais permet également d'offrir un espace de parole et de mettre en place un processus de réparation lorsque l'institution judiciaire n'intervient pas. Aucune condition procédurale n'est requise. En revanche, certaines conditions quant à la reconnaissance des faits sont nécessaires. En effet, si aucune plainte n'est requise pour enclencher la procédure, il est nécessaire pour son bon fonctionnement que l'auteur des faits ait reconnu les faits constitutifs de l'infraction, son infraction, ainsi que sa responsabilité. Une circulaire du 13 mars 2017 du ministère de la Justice relative à sa mise en œuvre rappelle la chose suivante.
Une mesure restaurative ne peut, en effet, être envisagée comme une sanction et doit permettre d'instaurer un dialogue avec la victime par le biais d'un échange respectueux entre les participants après une phase de préparation de chacune des parties.
Il est possible de retrouver la référence de la circulaire dans les sources de l'épisode. Enfin, auteurs et victimes d'une infraction doivent donner librement leur consentement pour participer à cette mesure. Pour cela, il est nécessaire que chaque partie ait reçu une information claire sur les modalités, les enjeux et les garanties du contrôle, ainsi que le caractère confidentiel et la capacité d'interrompre le dispositif à tout moment. Avant d'organiser une potentielle rencontre entre auteur et victime, le dispositif requiert un temps de préparation individuelle auprès de chaque personne intervenant dans le dispositif. La mise en œuvre de cette rencontre est encadrée par un tiers indépendant formé à cet effet sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci de l'administration pénitentiaire, comme indiqué par l'article 10-1 du Code pénal. Cette rencontre se fait en présence d'un animateur ou d'une animatrice après une préparation. Cette rencontre a pour objectif de rétablir le dialogue entre les deux acteurs, auteur-victime. À l'occasion d'un court film réalisé par l'INAVEM devenue France Victime, Sabrina Bellucci s'étend davantage sur l'encadrement des séances et du dispositif.
Pendant les rencontres détenues victimes, tous les participants, qu'ils soient victimes ou détenus, sont accompagnés par des professionnels. Cet accompagnement est important parce qu'il permet en effet de rassurer les personnes et de s'intégrer vraiment dans le dispositif sur la durée.
Accompagnés d'un animateur formé et sensibilisé, les acteurs peuvent avoir recours à différentes formes de justice restaurative. La médiation restaurative ou les rencontres détenues-victimes sont les plus connues. La médiation restaurative se traduit par une rencontre face à face, sous forme de lettres ou de vidéos, entre l'auteur d'une infraction et la victime directe. Cette médiation cherche à évoquer les faits commis, les conséquences sur la vie de chacun, afin de rétablir le dialogue ou d'engager ou finaliser un processus de réparation. Il existe également les rencontres détenues-victimes, condamnées-victimes, permettant la rencontre entre des auteurs et des victimes qui ne se connaissent pas mais qui ont été impliqués dans un même type d'infraction. Les individus se retrouvent alors à l'occasion de 5 rencontres et d'une dernière rencontre bilan. À côté de ces schémas classiques, d'autres dispositifs moins connus peuvent également être mis en œuvre. C'est le cas du cercle de soutien et de responsabilisation et du cercle restauratif. Le cercle de soutien et de responsabilisation est destiné aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Ce dispositif, généralement proposé lorsqu'il existe un fort taux de récidive, a pour objectif d'assurer la réinsertion des personnes condamnées ou détenues. Le cercle restauratif, quant à lui, cherche à offrir un espace de parole lorsque l'action publique ne peut être engagée en raison d'une prescription, de faits insuffisamment qualifiés, d'une ordonnance de non-lieu ou autre raison faisant obstacle à la mise en œuvre de l'action publique. Ces différents cercles s'adressent en priorité aux personnes sortant de détention dans l'objectif de les réinsérer en société. Le point commun de tous ces dispositifs est le suivant. Il s'agit d'une procédure reposant sur le dialogue afin de favoriser la compréhension sur ce qu'il s'est passé pour pouvoir surmonter cet événement traumatique. Pendant ce temps d'échange, les animateurs n'ont pas vocation à intervenir. Ils restent silencieux et agissent uniquement en tant que garants de la sérénité de la conversation. À l'occasion du film réalisé par France Victime, François Goetz, directeur d'établissement pénitentiaire, et Paul, animateur, reviennent sur l'encadrement de cette mesure.
C'est énormément préparé, tant du côté des victimes que du côté des auteurs, pour qu'il n'y ait pas de risque, notamment par rapport à la victime, de souffrance supplémentaire.
Les deux animateurs ont comme fonction de s'assurer que chaque participant puisse parler et que les échanges puissent se faire dans le respect des uns et des autres.
On est plus dans un rôle de soutien, d'aide, quand besoin s'en fait sentir.
Pour conclure cet épisode, il convient de rappeler que la justice restaurative est vue comme un processus et non comme une fin. Le respect de la temporalité est important dans ce processus. Il s'agit non seulement de respecter le temps des victimes, mais également celui des auteurs. Si les uns et les autres ne sont pas prêts à ce processus, la justice restaurative risque d'échouer. Quand bien même ce processus viendrait à échouer, cela n'est pas problématique. Ce qui compte derrière la justice restaurative tient surtout au fait de poser une graine. L'idée est d'encourager à réfléchir, à parler. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'impact de la justice restaurative sur les auteurs et les victimes d'infractions avec Amélie Coste. Merci pour votre écoute et belle journée à vous.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.